RFJ Info.
Le journal présenté par Alexandre Rosset.
Bonjour, le Parti Socialiste Suisse désigne le ou les successeurs de Christian Levrat. Mathéa Meyer et Cédric Vermouth sont les grands favoris. Ils devraient être élus aujourd'hui coprésidents lors d'un congrès en ligne. Un pesticide interdit pourrait faire son retour en Suisse pour sauver les betteraves sucrières. Les opposants se mobilisent et dénoncent le manque de transparence de l'Office fédéral de l'agriculture. C'est peut-être le soulier le plus célèbre du canton. La bottine médiévale découverte l'an dernier à Saint-Ursanne a été reconstituée par le musée de la chaussure. L'institution lausannoise a travaillé selon les méthodes de l'époque. Le soleil aura du mal à percer l'épaisse couche de nuages. De belles éclaircies sont toutefois possibles cet après-midi par endroits. Les températures oscilleront entre 7 et 11 degrés. Le Parti socialiste suisse choisit donc ce samedi sa nouvelle présidence pour succéder au fribourgeois Christian Levrat. Les quelques 600 participants au congrès voteront à distance. Le PS l'a décidé à la dernière minute pour éviter tout risque de propagation du virus. Mais les candidats et les orateurs se sont tout de même rendus à Bâle. L'élection se déroule en ce moment, il n'y aura certainement pas de surprise. Le duo alémanique Mathéa Meyer et Cédric Vermouth sont grands favoris. Les précisions de notre correspondant à Berne. Serge Hubin.
Christian Levrat devait transmettre le témoin ce printemps déjà, mais le coronavirus l'a contraint de jouer les prolongations pour quelques mois. Au printemps, deux duos étaient face à face, mais le Valaisan Matthias Reinhard, candidat au Conseil d'État, qui faisait équipe avec la Zurichoise Priska Zeiler-Graf, a jeté l'éponge. Ne reste plus que le duo Meyer-Vermouth et le Bernois de Nidau Martin Schwab, sans grande chance de succès. Qui sont Mathéa Meyer et Cédric Vermouth? Des politiciens déjà chevronnés malgré leur jeune âge, 33 et 34 ans. Tous deux sont conseillers nationaux urbains de Winterthur et d'Argovie, classés à l'aile gauche et militantes du PS. Tous deux promettent un renouveau, Mathéa Meyer.
C'est le moment où il y a besoin d'un PS qui est une force créatrice pour le changement sociétal. Ce n'est pas une rupture. Christian Levrat, il était tellement fort au niveau stratégique. Au moment où il y a des milliers de personnes qui protestent dans la rue contre la crise climatique ou pour la grève des femmes. Et je pense que le PS est aussi un mouvement au niveau civil. Le PS est l'endroit où se politiser.
Le Parti socialiste a besoin d'un nouveau souffle, électoral aussi. Il a beaucoup perdu en octobre 2019. Écoutez l'autre coprésident, Cédric Vermouth, il est conscient de la situation.
Si vous arrivez à 16 quelques pourcents, qui est le plus mauvais résultat dans l'histoire du PS suisse, en même temps que la gauche a fortement progressé, il faut se poser des questions. Pourquoi ? J'attaque pas directement la présidence du parti actuel, ou je crois la responsabilité, c'est vraiment sur ce beaucoup de domaines, mais il faut repartir en offensif, il faut que le PS devienne de nouveau une force de proposition concrète, et ce qu'a nous manqué peut-être les dernières années.
Le deuxième parti du pays doit aussi élire ses vice-présidents. Ils seront désormais 6, il y a 9 candidatures, dont 3 romandes. Devraient être ainsi élus vice-présidents les Vaudois Adamara et Samuel Bendaan. La Neuchâteloise Martine Daucourt du Commun, qui représente les femmes socialistes, s'est désistée.
Les précisions de Serge Hubin et nous reviendrons sur les résultats de ces élections à la présidence du Parti Socialiste Suisse dans le journal de 18h. Le Conseil fédéral devrait prendre ce week-end de nouvelles mesures nationales pour lutter contre le coronavirus. Plusieurs médias ont publié hier soir un projet d'ordonnance qui a été soumis au canton pour consultation. L'exécutif envisage notamment d'imposer le port du masque dans les lieux fermés accessibles au public et de limiter à 15 personnes les rassemblements dans l'espace public. Le Conseil fédéral doit se réunir demain à 11h pour une séance extraordinaire. Le canton de Neuchâtel a lui déjà annoncé de nouvelles mesures ce matin qui entreront en vigueur lundi. Il a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics clos et d'interdire les rassemblements de plus de 30 personnes dans l'espace public. Et la Belgique va de son côté fermer dès lundi ses bars et restaurants pour au moins 4 semaines. Un couvre-feu sera également instauré entre minuit et 5h du matin. Faut-il réintroduire un pesticide interdit pour sauver une filière de notre agriculture? La question se pose actuellement à Berne avec les néonicotinoïdes. Comme on vous le disait le week-end passé, les producteurs de betteraves sucrières réclament le retour de l'une de ces molécules pour pouvoir lutter contre la jaunisse virale qui s'étend dans leur culture. De leur côté, les opposants à cette réhomologation exigent de la transparence de la part de l'Office fédéral de l'agriculture. Ils veulent savoir sur quelles études se base l'OFAC pour envisager le retour d'une molécule aussi agressive sur l'environnement. Alexandre Ebi, apiculteur et enseignant-chercheur en biologie à l'Université de Neuchâtel.
Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un droit de regard de chercheur indépendant sur ce processus de réhomologation de cet imidacloprid.
Aujourd'hui, il y a justement trop de flou.
Il y a une opacité totale. On sait un petit peu comment se passent les choses. J'ai moi-même travaillé 5 ans à l'Agroscop, où j'étais responsable de produits phytosanitaires que sont les coccinelles, les cirfs, les nématodes pour la lutte biologique classique. Et alors je sais qu'il y a des droits de réserve de l'Office fédéral de l'agriculture par rapport à des dossiers d'homologation. Mais je pense que sur des sujets sociétaux comme ceux-là, sur des sujets qui impliquent la survie d'un écosystème, qui impliquent potentiellement la santé humaine, je pense qu'il y a du devoir de la Confédération de donner un peu plus de transparence par rapport à ces processus d'homologation. Je ne pense pas que ça peut se passer en huis clos sans donner des explications sur comment les décisions sont prises.
Et notez qu'une pétition adressée au Conseil fédéral a été lancée cette semaine pour s'opposer au retour des néonicotinoïdes. À l'étranger, la France est sous le choc ce samedi après le meurtre d'un professeur d'histoire. L'homme de 47 ans a été décapité hier en fin d'après-midi près d'un collège de la banlieue de Paris. Il avait récemment montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. L'assaillant, un jeune de 18 ans d'origine tchétchène, a été abattu par les forces de police. 9 autres personnes ont été placées en garde à vue, dont 2 parents d'élèves. Elles avaient eu un différend avec l'enseignant concernant les caricatures montrées en classe. En Nouvelle-Zélande, le parti de la première ministre Jacinda Ardern est en passe de décrocher une large victoire aux élections législatives. Le scrutin s'est tenu aujourd'hui dans le pays et les premiers résultats laissent penser que les travaillistes pourraient arracher la majorité absolue au Parlement. Un tel résultat serait une première pour un parti néo-zélandais depuis plusieurs décennies. Ils ont redonné vie à la bottine médiévale de Saint-Ursanne. Markita et Serge Volken ont reconstitué le soulier en cuir découvert l'an dernier pour l'exposer dans leur musée de la chaussure à Lausanne. Le couple a travaillé en se basant sur les fragments qui ont été mis au jour par les archéologues de l'Office cantonal de la culture. C'est alors de travaux d'assainissement de la vieille ville. Serge Volken nous explique comment la bottine avait été confectionnée à l'époque, soit au XIVe siècle.
Comme pratiquement toute chaussure du Moyen-Âge, on a affaire à une chaussure dite cousure tournée. Elle est cousue sur une forme en bois, à l'envers, c'est-à-dire le côté intérieur tourné vers l'extérieur, et puis ainsi on va assembler le dessus avec la semelle, et ensuite on la retourne comme si on retournait une chaussette, donc les coutures se trouvent à l'intérieur. Forcément tout cousu main, parce que la machine c'est que le 19e siècle, il y a une tige montante avec des petites boutonnières, donc avec un joli petit nœud qui fait office de bouton, comme fermoir.
Et puis alors pour la refaire chez vous, donc vous avez travaillé par rapport aux fragments finalement qui ont été retrouvés. Donc là, comment vous avez travaillé, comment ça fonctionne?
C'est une méthode qui ressemble un petit peu aux méthodes utilisées par la police scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye d'extraire un maximum d'informations du minimum qui reste encore. Parce que là, pour cette chaussure, on avait un peu plus d'un tiers de l'ensemble de la chaussure. Et puis ensuite, il faut déjà trouver toutes les traces de couture, d'ouvrage, de distorsion du cuir, traces d'usure, etc. Ensuite, élucider les parties manquantes, d'où une modélisation en papier. Puis là aussi, on va se servir d'exemples qui sont comparables dans le style ou patron de découpage. Et ensuite aussi dans une logique artisanale, c'est-à-dire une logique de découpe, de mouvement et de gestuel, ce qui est encore tout un chapitre en soi.
La bottine reconstituée de Saint-Ursanne est donc désormais exposée au musée de la chaussure à Lausanne. Enfin, on part au Royaume-Uni où l'industrie du transport doit, comme ailleurs, s'adapter à de nouvelles normes sanitaires face au Covid. Pour lui venir en aide, la technologie est parfois un allié précieux. À Londres, la gare internationale de Saint-Pancras est la première au monde à tester des robots tueurs de virus. Explication avec notre correspondante au Royaume-Uni, Elodie Goulesque.
Si l'idée d'avoir des robots tueurs fait toujours fantasmer les amateurs de films d'horreur futuriste, ces robots-là, eux, sont plutôt rassurants. Ils tuent, oui, mais seulement les virus, et sont donc bien utiles en ces temps de pandémie. Pour les apercevoir, il faut se rendre dans le centre de Londres, à Saint-Pancras, la toute première gare ferroviaire au monde à tester ces robots. Au-delà de leur mission de nettoyage, ces machines à UV sont aussi une présence rassurante, selon Jay Newton, chef de gare à la station.
One of the big things within
Le plus important dans les transports en ce moment, c'est d'apporter de la confiance. Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est de montrer aux usagers que l'on s'occupe des problèmes qui les préoccupent. À l'heure actuelle, seuls deux robots opèrent dans la gare avec des fonctions bien différentes. Le robot UVD, vous avez peu de chances de le voir car la lumière ultraviolette utilisée peut être dangereuse. L'autre robot, lui, est utilisé dans les espaces publics. Il est très bien protégé avec une myriade de capteurs pour s'arrêter au cas où et peut parler au public avec des messages indiquant qu'il faut bouger ou encore que le robot se dirige vers vous. Si la technologie est américaine, c'est l'entreprise danoise UVD Robot qui a créé ces robots et c'est donc grâce à des rayons ultraviolets et des désinfectants qu'ils peuvent éliminer les virus présents sur les surfaces et dans l'air. Malgré leur relative indépendance, ces robots doivent tout de même être accompagnés de personnel pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Selon Jay Newton, il s'agit simplement d'un nouvel outil pour ses employés de nettoyage. L'équipement est très simple d'utilisation. Le personnel l'utilise comme un outil supplémentaire, de la même façon qu'ils utiliseraient un aspirateur ou un balai. Donc en fait, c'est simplement un autre accessoire pour qu'ils puissent faire leur travail. Parfois curieux, souvent intrigués, les passagers ou passants qui s'aventurent dans la gare ont jusqu'ici plutôt bien réagi à ces nouveaux compagnons dans leur trajet quotidien. La réaction du public a été fantastique. À chaque fois qu'ils passent par là, les gens veulent qu'on les prenne en photo avec les robots et ils posent toujours beaucoup de questions sur leur rôle ou pourquoi ils sont là, donc ils suscitent vraiment beaucoup d'intérêt. Malgré leur efficacité, ces robots ont un coût que Jay préfère taire. Mais pour la gare internationale, la sûreté sanitaire de ces équipements permet aux clients de venir en toute confiance. Si vous n'avez pas l'opportunité de les apercevoir à Saint-Pancras entre deux Eurostars, ces robots sont aussi testés à l'aéroport international d'Heathrow.
Les précisions de notre correspondante à Londres, Elodie Goulesque. Sport. La Coupe du Monde de ski alpin est de retour et les Suisses sont déjà dans le coup, Yannis Gonia.
Et oui Alexandre, honneur aux dames aujourd'hui à l'occasion du géant de Sölden en Autriche. Trois d'entre elles ont pris place dans le top 10 d'une première manche dominée par Marta Bassino. L'Obvaldienne et Michelle Gisin partagent le quatrième rang avec la Néo-Zélandaise Alice Robinson à 1 seconde 18 centième de l'Italienne. La Tessinoise Lara Gut-Berami est sixième à 1 seconde 39 juste devant la Schweizoise Wendy Holdener. Plus loin, l'Obvaldienne Priska Nufer est 20e, l'Anitvaldienne Andrea Ellenberger 25e et pour son retour au plus haut niveau, la Valaisanne Kamiras a pris le 33e rang. Elle ne sera donc pas au départ de la deuxième manche prévue à 13h. Le BC Boncourt peut lancer sa saison de Swiss Basketball League aujourd'hui. Moins d'une semaine après une défaite frustrante dans le derby face à Union Neuchâtel, la Red Team se rend à Nyon avec les Crocs. Elle y défie les Vaudois sur les coups de 17h30. Et le championnat de Swiss Basketball League, qui se trouve par ailleurs touché par le coronavirus, on l'a appris hier soir, les Lugano Tigers ont été mis en quarantaine après la découverte d'un cas positif au sein de leur effectif. Leur match prévu aujourd'hui face au Lion de Genève a ainsi été reporté. En hockey sur glace, le HC Franche-Montagne va lui tenter de rester sur son nuage cet après-midi. Il peut signer sa sixième victoire de rang en première ligue face à Adelboden. Coup d'envoi de cette partie à 17h à Seignelay-Légier. Et après plus de deux semaines sans jouer en raison du coronavirus, le HC Delémont-Vallée retrouve lui le chemin du championnat avec la réception d'Yverdon à 17h également. En deuxième ligue, c'est Derby Time, ce soir en prévôté. Pour lancer sa saison, le HC Moutier accueille le HC Tramelan à 20h15. Des Tramelots qui n'ont décroché qu'un point en deux matchs. On garde les cannes, mais on enfile les rollers. Cette fois, les playoffs de Liga D-Line Hockey s'ouvrent cet après-midi avec l'acte 1 des quarts de finale. Le SHC Buis accueille Malcantone alors que Rosmaison se frotte à l'échelle également dans le Jura. Les deux rencontres seront lancées sur les coups de 17h. Et si les patins sont sortis, les crampons ne sont pas encore au placard. C'est également jour de match pour les footballeurs de 2e Ligue interrégionale. Le FC Moutier est en train d'aller créer la surprise à Binningen et ainsi poursuivre sa remontée au classement. De son côté, le FC Tavant-Tramelan, Lanterne Rouge, reçoit la visite de Dornard. Coup d'envoi de ces deux parties à 16h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de Claude pour la météo.
Merci Yannis Gonia et merci Alexandre Rosset. L'actualité, vous la retrouvez ce soir à 18h. Et la météo tout de suite, justement, quelques belles éclaircies pour cet après-midi, de préférence donc. Les températures vont rester fraîches avec un 11 au meilleur de la journée en Ajoie, mais également dans la vallée de Dolémont, 10 à Moutier, 8 à Seigne-Légier ou encore 7 à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Demain, de nombreux bancs nuageux au ciel, souvent gris sur la région, jusque vers 1700 à 2000 mètres d'altitude. Développement à nouveau d'éclaircies en journée, avant tout l'après-midi et au pied du massif, et puis un ciel restant assez nuageux le long des pentes et les températures resteront fraîches. Et lundi, quelques bancs de grisaille en matinée, puis du soleil pour toutes et tous.